Bonjour, et bien nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Menoury pour l'émission Bienvenue en Europe.
Bonjour.
Et finalement l'Europe avance. Et moi je vois avec étonnement qu'un certain nombre de domaines dans lesquels l'Europe n'était pas compétente, finalement, elle est devenue compétente par la force des choses et de la situation. Alors parlons de la situation sanitaire,
oui,
justement.
Mais en ce qui concerne la situation sanitaire, on entend comme toujours toujours ce qui va mal, on oublie tout ce qui va bien. Et comme c'était souligné d'ailleurs par l'Institut Jacques Delors récemment, c'est toujours, quand il y a quelque chose, c'est la foire d'empoigne, c'est la faute à l'Europe. Et si c'est pas la faute à l'Europe, si l'Europe s'occupe pas de quelque chose, eh bien on dit « mais qu'est-ce que fait l'Europe ?» Donc de toute façon, quelle que soit la présentation des choses, ça sert de bouc émissaire. Et ça, c'est un peu le côté un peu dramatique de... Mais c'est pas récent, ça.
C'est typiquement français, c'est la culture française. On râle toujours, et individuellement, on est quand même assez satisfait de ce qui se passe.
Et en ce qui concerne la crise sanitaire, il faut dire que sans l'Europe, la situation aurait été bien pire qu'elle ne l'est actuellement. Il faut rappeler quand même que la santé n'est pas de la compétence exclusive des institutions européennes, c'est donc une compétence nationale, et que ce sont les pays, les États membres, qui veulent bien partager ce qu'ils veulent au niveau européen, s'ils le souhaitent.
D'ailleurs, on le voit bien, hein.
Et précisément, dans cette crise, l'Union faisant la force, les États se sont rendus compte qu'effectivement, il ne fallait surtout pas partir en ordre dispersé. Et donc, c'est la raison pour laquelle le budget européen, des montants considérables ont été débloqués dans le cadre du budget pour aider les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires, à développer des vaccins et également passer commande une fois que ces vaccins seraient mis sur le marché. Et donc, ceci, c'est grâce à l'Europe. Et que si c'était un pays isolé, eh bien, c'est tout à fait différent. Alors, évidemment, on entend toujours ceux qui essaient de regarder ce qui ne va pas en disant « Ah oui, mais regardez, par exemple, le Royaume-Uni, il a eu plus de vaccins que nous, il ne fait pas, ils ont, et nous on est derrière, comment ça se fait ?» Bon, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on n'est pas loin derrière, et qu'on a préféré avoir le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, pour avoir son feu vert, pour être sûr que la protection des citoyens était assurée par un examen très pointilleux des vaccins qui arrivaient sur le marché. Alors, il y a deux vaccins, on en a déjà parlé à d'autres émissions principaux, qui font appel à ce qu'on appelle l'ADN, enfin, ce n'est pas les vaccins
ADN
traditionnels.
Donc,
ces deux vaccins sont lancés actuellement. Le principal a été effectivement distribué à grande échelle au niveau de la Grande-Bretagne, et il y a eu des retards d'allumage, en quelque sorte, au niveau européen, non pas de la faute de l'Europe, mais parce que il y a eu, du côté des laboratoires, en particulier le premier, Pfizer, de retenir les doses qu'il avait promises, et il y avait un engagement de ces laboratoires vis-à-vis de l'Union européenne, qui avait négocié à l'époque avec des tarifs intéressants. Alors, ce qu'on oublie de dire, c'est que la Grande-Bretagne, par exemple, elle a pris davantage de vaccins parce qu'elle a payé plus cher pour les avoir. Mais elle a payé plus cher, mais à ses propres risques. Et de toute façon, au bout du compte, il y aura autant de vaccinés au niveau du continent que de l'autre côté de la Manche.
Alors, on peut regarder aussi que le prix de la vaccination en Angleterre, c'est bien plus cher.
Tout à
c'est
fait.
C'est pas gratuit.
En plus. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu également une sorte de, j'ose pas trop dire, de tricherie du côté de Pfizer, pour le vaccin principal. C'était de dire qu'ils vendaient, c'était le nombre de doses. Et eux, ils fournissent
des flacons de 5 doses, 6 doses. Et les 5 doses, 6 doses, voilà. C'est
et donc,
un peu voleur.
Et donc, ils se sont dit, ben, puisqu'il y a un peu plus dans le flacon, mais alors ils ont joué là-dessus. Si bien qu'il y a eu une espèce de pénurie, parce qu'ils ont diminué du coup la fourniture, la livraison aux États européens. Et donc, cela a joué malencontreusement sur...
La distribution du vaccin. Que Mme van der Leyen ne soit pas laissée faire.
Alors, il y a eu de la part de Mme van der Leyen, présidente de la Commission européenne et de ses services, des réactions tout à fait solides pour mettre en cause, sur le plan juridique, l'engagement de ces laboratoires. Et de dire, eh bien, on va, au niveau juridique, intervenir s'il le faut pour que nos contrats soient respectés scrupuleusement. Ceci a d'ailleurs été également avec le nouveau vaccin qui est arrivé sur le marché, le troisième, l'Astra, qui est un vaccin AstraZeneca, qui également avait bénéficié des fonds européens pour ses recherches, et qui, comme par hasard, donnait moins à l'Europe alors qu'il donnait à d'autres. Et donc la Commission est intervenue très vigoureusement et a demandé à ce que tous les laboratoires qui sont sur le territoire européen disent exactement où sont passés leurs vaccins. Et que si ce n'était pas le cas, on menaçait même de bloquer aux frontières les exportations à des pays tiers. Donc la Commission européenne a agi vigoureusement pour faire en sorte que les contrats soient respectés. Et encore une fois, ces contrats constituent un atout considérable sur le plan européen parce qu'ils représentent des centaines de millions de doses. Il y a 450 millions d'Européens sur notre continent dans l'Union européenne, hors Royaume-Uni, bien sûr, et la plupart, tous les vaccins qui ont été commandés dépassent très très largement le nombre d'habitants du continent européen. Donc c'est l'Europe qui s'est engagée pour développer tout ce que l'on pouvait faire pour aider les populations et a pris en charge la coordination, ce que les États étaient très contents finalement de pouvoir obtenir. Et voilà où on en est. Donc, peu à peu, ces vaccins qui ont eu du freinage vont à nouveau être développés plus largement, parce qu'il faut aussi ne pas oublier que ces vaccins, il y a quelques mois, n'existaient pas. Tout d'un coup, ils arrivent. Au départ, notamment en France, on dit « Ah, mais on ne veut pas se faire vacciner ». Tout d'un coup, tout le monde veut se faire vacciner, mais il n'y a pas assez de vaccins. Bon, il ne faut pas non plus rêver. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, produire des milliards de doses en 15 jours. C'est impossible.
Remarquons donc, quand même qu'à Saint-Rémy-sur-Avre, donc voilà, en Eure-et-Loire, sur les terres d'Eure-et-Loire,
exactement,
on produit le vaccin, ou on va produire le vaccin.
Le vaccin Pfizer-BioNTech va être produit par le laboratoire Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre, donc en Eure-et-Loire. Et donc, sur le plan du continent européen, de plus en plus de laboratoires vont être mis à contribution pour pouvoir produire. Alors, il y a également, au niveau des médias, des choses qui mérite quand même d'être souligné parce que, on en revient toujours, c'est la faute à l'Europe ou l'Europe ne fait pas assez, mais on est très focalisé, bon, ce qui paraît à peu près normal, mais quand on écoute la radio et la télévision normale, pas notre radio, j'entends bien, mais la plupart des grands médias nationaux, de dire que on prend toujours le mauvais côté des choses et surtout le côté uniquement franco-français. On oublie la dimension européenne. Et en ce qui concerne même la situation sanitaire, puisque nous sommes un peuple de râleurs, de Gaulois qui aiment bien toujours dire ce qu'ils pensent en critiquant beaucoup, mais on oublie de comparer par rapport aux autres pays qui nous entourent, et en particulier cette dimension de l'Union européenne. Et ça, c'est un regret, en tout cas que moi j'ai personnellement, c'est qu'il n'y ait pas assez d'informations sur nos voisins qui sont nos frères du continent. Nous faisons partie de la même unité, nous faisons partie de cet ensemble qu'est l'Union européenne. Or, en matière sanitaire, eh bien, On dit, ah oui, mais en France, c'est pas possible, on en fait trop, c'est dramatique pour tout le monde. Oui, mais regardons comment font nos voisins, en particulier l'Allemagne, notre voisin immédiat, plus grand voisin qu'on admirait tous ces derniers temps en disant, mais regardez, il faut prendre exemple. Mais ils ont des problèmes, eux aussi, à résoudre, qui sont aussi difficiles que les nôtres, et ils s'en sortent pas mieux. Ils font de même comme ils le peuvent, mais par exemple, ils ont des mesures de confinement drastiques. Jusqu'au 14 février, tous les bars, restaurants, salles de sport, institutions culturelles, etc., tout est fermé. Tous les commerces essentiels et non essentiels également. Les écoles également ne seront pas ouvertes avec
aussi,
aux Pays-Bas. Alors il y a toute une série comme cela de pays, même des pays qui étaient considérés comme très... libéraux sur ce plan-là sont revenus pour dire, et avec toutes ces nouvelles vagues de contamination, non, on va devoir se reconfiner et en tout cas prendre des mesures drastiques pour essayer d'empêcher le virus de se diffuser. Donc tout ceci fait partie d'un ensemble où la dimension européenne est généralement ignorée du grand public. Ce qui est quand même dommage parce que nous faisons partie de ce tout et que, encore une fois, c'est pas un pays à part tout seul qui va essayer de s'en sortir. Il n'y parviendra pas. Et en matière de vaccins, eh bien, on peut remercier le fait que la Commission européenne ait contracté tout de suite, très vite, des milliards de doses pour pouvoir prémunir la santé des citoyens européens. Donc voilà, en ce qui concerne...
Des milliards, non, quand même pas.
Mais oui, là j'exagère. Voilà. Mais si, quand même. 2,15 milliards, exactement.
Ah bon.
Donc c'est 2,275 milliards de doses. 2,275 milliards de doses. Et elle a précommandé auprès de 6 laboratoires. Et devant les difficultés à se faire vacciner actuellement, elle s'est retournée vers le principal fournisseur actuel, Pfizer-BioNTech, pour passer de nouvelles commandes de 200 millions de doses supplémentaires, plus encore 100 millions optionnels, alors qu'elle avait déjà précommandé 300 millions de doses.
J'imagine que dans les contrats, il y a un certain nombre de réglementations qui prévoient que si les laboratoires ne les fournissent pas, le contrat tombe, j'imagine, qu'on ne paie pas des doses qui n'existent pas.
Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a menacé les laboratoires qui ne jouaient pas le jeu et qui essayaient de prendre des parts sur le marché pour profiter financièrement du fait que tout le monde en a besoin.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même un peu... Enfin bon, qui me choque, comme citoyenne européenne et comme chrétienne, c'est qu'en fait, la santé, c'est un bien commun. Or, là, on perçoit que les laboratoires, et peut-être là, il faudrait revenir sur quels sont les biens communs, parce que l'eau, la santé, il me semble que ça, c'est pour tous les hommes, y compris ceux qui sont dans les pays les plus pauvres. Enfin, ça, c'est une remarque au passage.
Mais sur ce plan-là, on doit souligner que l'Europe, par la voix de la Commission européenne, s'est engagée à aider le tiers-monde.
À fournir des doses aussi.
Donc, et indiquant toutes les doses qui ne seront pas utilisées, le seront pour les pays pauvres. Et elle s'est engagée à les aider à fournir aux pays qui n'avaient pas les moyens d'acquérir des vaccins.
Ça,
donc
vraiment,
ça fait partie de l'ensemble de l'engagement de l'Union européenne, et ceci est remarquable. Et aussi pour rappeler que le fait que toutes ces commandes sont coordonnées au niveau européen, elles sont coordonnées de telle sorte que chaque pays, en fonction du nombre de sa population, reçoive un nombre équivalent de vaccins.
D'accord,
qu'il n'y ait pas
de disparité. Riches et les pauvres. D'accord.
Exactement.
Donc
là aussi, la dimension européenne est un plus à souligner.
Alors ça, c'était pour la crise sanitaire. Et bon, alors rappelons que le Brexit continue sa vie. L'Angleterre, elle continue la sienne, et la France aussi. et on perçoit que finalement, là où on nous avait dit que ce serait vraiment très grave, bien ça l'est un peu moins, notamment pour la pêche. Et les pêcheurs britanniques ne sont pas très contents. Ils ont l'impression que Johnson les a un peu abandonnés. Au niveau politique européen, nous avons changé de présidence. Donc, après la présidence allemande dont on pouvait se féliciter, nous sommes sous la présidence portugaise. Pas de changement, finalement, d'orientation.
Non, parce que quand on passe d'une présidence à l'autre, il y a de toute façon des coordinations.
Un tuilage qui s'est fait.
Et il y a tout
un tuilage.
Comme vous le dites, et qui est préparé, coordonné au niveau européen, sous la houlette de la Commission européenne, pour que les dossiers soient transmis d'une présidence à l'autre tous les 6 mois, de manière coordonnée précisément, et harmonisée, et également puisse s'inscrire dans le plan, la programmation qui a été organisée pour le plan présenté par la Commission européenne pour son quinquennat. Donc tout ceci fait partie d'un ensemble, mais il est clair qu'il y a des pays qui ont cette présidence, qui a lieu tous les 6 mois, qui sont plus engagés que d'autres ou qui ont plus de moyens pour essayer de faire avancer certains dossiers. Et en tout cas, du côté de la présidence allemande, on pourra en tout cas se rappeler que le grand plan de relance...
Le plan de relance, le plan financier, tout ça,
a été fait. Tout ça grâce à la présidence allemande qui a fait tout ce qu'elle a pu pour débloquer les situations par rapport à certains égoïsmes nationaux. On en avait parlé dans des émissions précédentes, notamment du côté de la Hongrie, j'ai commencé. Et puis aussi pour parvenir à l'accord sur le Brexit aussi. Donc il y a eu toute une série de choses qui ont été engagées. Le budget a été débloqué, si bien que maintenant les portes sont ouvertes précisément pour que cette nouvelle présidence portugaise puisse fonctionner le mieux du monde. Et là aussi, elle a déjà, d'ores et déjà, mis sur la table un certain nombre de choses. Rappelons d'ailleurs au passage que les médias, nos médias nationaux, s'intéressant peu à ce qui se passe autour de nous dans le cadre de l'Union européenne, a oublié d'indiquer que le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a été réélu le 24 janvier dernier.
Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que la présidence qu'il a prise se poursuit.
Tout à fait. Et une des mesures qui vient d'être lancée et a été approuvée au niveau des États membres, des autres États membres de l'Union européenne, c'est de relancer la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence aurait dû être lancée l'année dernière, mais compte tenu de la situation sanitaire, elle a été reportée. Donc cette fois-ci, tout est bien décidé. Il y a un feu vert marqué au niveau de tous les pays membres. Tout le monde est tombé d'accord. Elle sera lancée officiellement le 9 mai prochain depuis Strasbourg.
Rappelons que le 9 mai,
le jour de l'Europe, la journée de l'Europe symbolique.
L'horloge, enfin bon, c'est vraiment...
Le lancement de l'Europe lorsque Maurice Schumann, ministre à l'époque des Affaires étrangères, avait lancé cette idée de faire quelque chose au niveau européen à travers le charbon et l'acier, pour commencer.
Alors, pour finir dans cette
c'est une conférence qui sera ouverte à des débats qui seront ouverts à tous les citoyens de base, qui pourront apporter
leurs
idées précisément pour dire quelle est l'Europe de demain que nous voulons. Donc ça, c'est très important. Et il y aura un comité exécutif de pilotage et les compétences seront partagées exactement entre le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen. Donc tout cela est bien mis sur la table et c'est quand même symboliquement quelque chose qui est un déclic qui est quand même important à souligner. Alors là aussi, peu de médias en ont parlé, mais c'est quand même important de voir que à travers ces difficultés que nous rencontrons au plan sanitaire et la crise économique qui l'accompagne, eh bien que l'Europe est en train de prendre en main son destin, et en tout cas, elle se donne les moyens de le faire à travers un certain nombre d'instruments. Donc ça, c'était un point à souligner.
Et oui, puis... parce que ça veut dire que les citoyens, donc nous et vous, chers auditeurs, avons à saisir toutes les opportunités pour dire un peu quelle Europe nous voulons. Est-ce l'Europe des financiers, l'Europe des marchands, l'Europe de Schengen, l'Europe de l'euro, enfin bref. En tout cas, y réfléchir. Pas simplement en critiquant, mais en se disant, eh bien tiens, là, il y aurait peut-être telle ou telle chose qui pourrait être améliorée. Je crois que c'est important de dire l'Europe, ça nous appartient. Nous sommes citoyens
Exactement.
Européens.
Exactement. Et en ce qui concerne le budget, puisqu'on en touchait un mot à l'instant, on peut également souligner que au niveau de la France, le Sénat français a adopté le 4 février, donc tout récemment, le projet de loi autorisant la création de nouvelles ressources propres pour le budget de l'Union européenne, et la Chambre des députés l'avait déjà voté auparavant. Donc la France, maintenant, a donné son feu vert pour que, précisément, on aille de l'avant.
Et les ressources propres pour l'Europe.
Et les ressources propres pour l'Europe, c'est quand même un élément extrêmement important à souligner, parce que c'est l'arme dont on a tous besoin, évidemment. Mais jusqu'à présent... le budget européen était alimenté, enfin on l'a déjà souligné à l'une ou l'autre reprise sur cette antenne, mais est alimenté par les États membres qui, chaque fois, à chaque nouveau budget, essaient de négocier pour évidemment donner le moins possible ou alors récupérer un maximum. Ce qui est logique, normal, mais ce qui fait défaut et qui était pourtant toujours et qui est inscrit dans les traités, c'est que il est prévu que l'Europe ait ses propres ressources indépendamment des États membres, c'est-à-dire qu'elle puisse soit créer des impôts, soit en tout cas trouver un système qui lui permette d'alimenter un budget indépendamment des États. Et précisément, il y a toute une série de mesures qui sont prévues pour essayer d'aller de l'avant, précisément avec ce nouveau plan de relance, parce que pour le financer, il n'y a pas de miracle, il faut de l'argent. Donc il faut emprunter. On va emprunter comment ? En mettant sur le marché des obligations européennes. Et comment est-ce qu'on va rembourser tout ceci ? Eh bien, on va le rembourser peu à peu par la mise en place précisément de nouvelles ressources propres. Et donc c'est là où c'est important que chaque État membre qui fait partie de ça accepte ce budget qui, au niveau européen, donc, va pouvoir être mis en œuvre. Et donc, au niveau du calendrier, pour alimenter en particulier les 750 milliards de l'emprunt pour relancer l'Europe, plan de relance, eh bien, il y a toute une série de mécanismes, par exemple l'ajustement carbone aux frontières, donc l'application, ça sera en janvier 2023. La taxe sur le numérique, c'est prévu également en janvier 2023.
Encore faut-il que les pays acceptent de la faire payer.
Alors, on va voir, mais tout ça est sur la table. Donc, il y a un accord de base. Après, ça se négocie. La révision du système d'échange des quotas d'émissions, là aussi, c'est au niveau de l'environnement. 2023 également. Après, la taxe sur les transactions financières, qui était une idée déjà ancienne, c'est prévu pour janvier 2026. Et bien, également avec une contribution financière au niveau des entreprises. Donc il y a toute une série de taxes, d'impôts qui devraient être prélevées directement au profit de l'Union européenne sans que ça provienne du budget de chaque État membre. En quelque sorte, ces taxes, ou quel que soit le nom qu'on peut leur donner, permettraient en tout cas aux États de ne pas payer quoi que ce soit, puisque ce serait prélevé directement par l'Europe. Donc les citoyens n'auraient pas à payer plus. Simplement, il faut trouver le bon outil pour, par exemple, lorsqu'on pense aux taxes sur les transactions financières, on sait très bien que les fameux GAFA essaient jusqu'à présent d'empêcher toute possibilité au niveau international à ce qu'elles soient taxées. Ils ont des bénéfices considérables, ils ne sont pas taxés, donc il y a une injustice totale par rapport à des entreprises normales.
Et entre ça et les paradis fiscaux.
Et les paradis fiscaux.
Donc,
c'est un. Là aussi, donc, la France a marqué un point en disant, voilà, nous, on soutient ça.
Alors, symboliquement, au niveau des symboles, on peut parler de Frontex aussi.
Oui, voilà, au niveau des symboles, quelque chose qui est passé inaperçu, mais c'est que au début de l'année, eh bien, pour la première fois, l'Union européenne a une police qui s'appelle Frontex, vous savez, police aux frontières, mais une police qui a un uniforme commun. C'est le même uniforme, c'est un uniforme, c'est une police européenne. Et alors, c'est intéressant à voir symboliquement, évidemment. Mais cet uniforme, c'est un uniforme bleu, il faut aller sur Internet pour le voir. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur cet uniforme, sinon qu'il y a évidemment le symbole avec les 12 étoiles, etc. Mais aussi, ce qui est important, c'est de montrer que c'est couleurs marines foncées. Hein. Mais c'est aussi que ce n'est pas un gadget juste pour montrer ça, il y a quand même un côté symbolique, mais c'est aussi une décision de l'Union européenne de se doter de son propre corps de garde-côtes et pour la première fois des agents qui sont recrutés directement par l'Union. Alors que jusqu'à présent, c'était les uniformes nationaux avec la police nationale qui agissait, qui ont sous-traité. Tandis que là, maintenant, il y a plusieurs milliers on table pour aller jusqu'à 10 000 représentants de Frontex aux frontières européennes, 10 000 à terme. Mais d'ores et déjà, il y en a qui se sont mis en place et qui sont recrutés directement. Donc c'est au niveau symbolique quelque chose à souligner. Et cette police aux frontières, elle est là aussi pour le bien de tous, aussi pour protéger précisément nos frontières, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer le droit. Et lorsqu'on pense aux frontières, évidemment, il y a toute une partie de personnes au niveau politique qui se permettent de dire, eh bien, ah oui, mais non, là, on laisse passer tout le monde. Ou alors, au contraire, d'autres qui disent, ah mais non, on les a rejetés à la mer, ils se sont noyés, etc., la faute à Frontex. Alors, c'est à nouveau la faute à l'Europe. Ou alors, il n'y a pas assez d'Europe. On retrouve tombe sur ce qu'on disait au début de notre...
Mais c'est difficile de se forger une conscience difficile. Européenne, mais en fait, petit à petit, ça vient.
Et puis, c'est quand même important parce que c'est un symbole. Nous faisons partie d'un tout, et ce tout, il faut le défendre ensemble, et c'est quelque chose qui méritait d'être rappelé.
Alors, il y a quand même aussi une situation nouvelle, dans la mesure où, sur le plan international, l'Europe a salué la venue du nouveau président des États-Unis. Non pas que cette présidence va être miraculeuse. Il y a des choix que les États-Unis ont faits. On imagine mal qu'ils abandonnent leurs prérogatives. Mais il y a aussi, disons, une fermeté européenne face aux États-Unis. On n'est pas à la remorque, mais on entre en relation et pas simplement comme pour faire cavalier de second rang.
Oui, mais là aussi, les circonstances internationales font que la crise sanitaire, le départ du Royaume-Uni, la politique américaine de repli sur elle-même à travers la présidence Trump, ce qui se passe du côté de la Russie, de la Turquie, de la Chine, tout ce contexte international fait que l'Union européenne, nos pays, pris individuellement, s'ils veulent s'en sortir, doivent là aussi s'unir. Et donc ceci est tout à fait important et a été compris au niveau européen. Et là, on doit reconnaître qu'avec, à travers la nouvelle Commission européenne, eh bien, on a pris acte de ceci et on met sur la table tout ce qu'il faut pour que l'Europe puisse précisément se défendre, mais également se relancer au plan économique et agir pour le bien de tous.
Et agir en tant qu'Europe, mais non pas à la remorque de tel ou tel. Eh bien, le temps s'écoule. Chers auditeurs, je vous dis, ne ratez pas de suivre toute l'actualité de l'Europe dans vos journaux favoris, bien sûr, et bien sûr sur Radio Grand Ciel. Bonne semaine à tous, au revoir.